L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard. Je vous retrouve. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Et si cette histoire vous a intéressé, si elle vous a passionné, et si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous propose tout de suite d'écouter le supplément de l'émission avec des questions qu'on a pu oublier ou que l'on n'a peut-être pas posées. Pour en savoir plus, eh bien, je vous propose de retrouver tout de suite la rédactrice en chef de l'heure du crime, Justine Vigneault, avec son invité.
Bonjour Christine Dupont-Ligonnès.
Bonjour.
Merci de rester en studio pour ce supplément de l'heure du crime. Vous sortez ce livre « Xavier, mon frère présumé innocent » que vous avez écrit avec votre mari, Bertram de Verdun, aux éditions HarperCollins. On en a parlé longuement dans l'heure du crime et je voudrais revenir sur cette lettre que Xavier vous a envoyée, vous et d'autres proches. Vous avez dit tout à l'heure, cette lettre répond à certaines interrogations que j'avais sur mon frère. Lesquelles ? J'aimerais qu'on les détaille. Quelles questions vous vous posiez sur lui avant cette lettre ?
Alors, il y avait des questions qui étaient inconscientes. Et cette lettre les a éclairées. Par exemple, justement, tous ces voyages dispendieux aux États-Unis, quand on n'est pas spécialement aisé. Alors, ils l'ont fait aussi sur l'héritage d'Agnès. Agnès était d'accord pour le faire. C'est aussi pour ça que quand on explique que mon frère a spolié sa femme, etc., je ne suis pas d'accord. Ils ont fait ça d'un commun, voilà, de concert. Ils étaient partants tous les deux. Bon, c'était quand même assez étonnant. Par exemple, le fait d'avoir des chiens, deux labradors, quand on a du mal à boucler ses fins de mois et qu'on a déjà quatre enfants, c'est voilà. Enfin, c'est pas un poisson rouge ou un canari quand même, deux labradors. Ça pèse sur le budget. Qu'est-ce qu'il y avait encore des justement, un voyage aux États-Unis qui se passe après une naissance. Et quand j'apprends la nouvelle, j'étais allée aider Agnès, justement, qui avait déjà d'autres enfants. Je me dis, mais enfin, Agnès ne peut que le prendre mal. Enfin,
oui, juste après la
après,
naissance.
Voilà, la semaine qui suit. Donc, et Xavier qui nous dit, je pars avec Michel aux États-Unis parce que c'est notre seul créneau, puisque tu es là pour aider, etc. C'est complètement inconcevable. Donc, sur le moment, ben, j'encaisse, en fait, j'enregistre ces informations étranges et la lettre vient leur donner du sens.
Comment est-ce que vous avez travaillé pour préparer ce livre ? Ça vous a pris des années ? Vous avez épluché le dossier avec votre mari ? Comment ça s'est passé ?
Alors oui, nous avons passé du temps sur le dossier d'instruction chez notre avocat, maître Stéphane Goldenstein, surtout les premières années. Mais bon, après, moi, personnellement, je suis quand même passée à autre chose, puisque j'avais cette optique assez différente, évidemment, de la pensée dominante. Et il fallait aussi qu'on reprenne un peu notre vie privée. Mais le temps passant, nous avons vu tellement d'approximations et puis de versions fantasmagoriques proliférer, pulluler, que nous nous sommes dit, enfin, surtout Bertram, mon mari, s'est dit, il y a un moment, il va falloir faire quelque chose. Enfin, il m'avait parlé d'écrire un livre dès le début. Moi, je n'étais pas tout à fait partante, j'étais un peu dans la logique de ma tranquillité, bon, je reconnais, et je savais que ça allait générer quelques vagues, donc je freinais un petit peu, et puis bon, finalement, lui s'est mis au travail de son côté, j'ai trouvé ce qu'il écrivait tout à fait intéressant, et bon, je suis tout à fait volontiers entrée dans le projet pour justement restaurer le vrai visage de mon frère et apporter aussi bien à nos familles, à la famille d'Agnès et au grand public et surtout aussi à ses amis des données que ces personnes n'avaient pas.
Mais quel a été le déclic ? Parce que 13 années sont passées, donc pourquoi maintenant ?
Alors ça, c'est Bertram qui répondrait mieux que moi, mais il y a eu deux déclics, donc cet emballement médiatique qui a fait suite à l'arrestation de Guy Joao, ce malheureux Guy Joao, à Glasgow, où tous les médias ont affirmé, sauf un qui a employé le mode conditionnel, que mon frère avait été arrêté. Et effectivement, la France entière ne pouvait que le croire. Et donc, Bertram, mon mari, l'a cru comme tout le monde. Moi, pas du tout.
Pas une seconde ?
Pas une seule seconde. Totalement incohérent avec les éléments que j'avais déjà. Voilà. Et parce que maître Goldenstein m'a tout de suite téléphoné en me disant « Bon, ben voilà, Xavier a été arrêté. Bon, » enfin, moi, ça m'a fait l'effet d'une farce, en fait. Donc certes, tous les médias s'étaient emballés, mais comme je voyais déjà depuis un certain nombre d'années ce que les médias racontaient sur ma propre famille et sur Xavier, je n'étais pas fondée à y croire les yeux fermés.
Vous croyez à la thèse de l'exfiltration, qu'il a été appelé, qu'il était qui travaille pour comme agent secret aux États-Unis, enfin pour faire simple. Quel était son métier à votre frère exactement ?
En France ?
Oui, en France.
Il était représentant.
Et il vous en parlait de son métier ?
Oui, il nous en parlait quand il venait déjeuner. Mais il a changé plusieurs fois de boîte et c'est pareil. Enfin, il était représentant alors qu'il n'aimait pas parler. Certes, il aimait bien faire de la route, mais ça, c'est complètement différent. Ce n'est pas un argument, je veux dire. Mais ça fait partie des interrogations que j'avais. Je me disais, mais en fait, il sillonne la France partout. Je sentais qu'il avait une double casquette, mais je ne me le formulais pas. Mais je l'ai compris. Je me suis dit, ah, effectivement, en lisant cette tête, voilà. Donc, il sillonnait la France, il y avait une vraie raison. Après, les boîtes de nuit, c'est peut-être tout à fait un décor de théâtre. C'est peut-être pas du tout là-dedans qu'il faisait du renseignement.
Alors, moi, j'ai une question. Pourquoi faire croire à un drame familial et pourquoi ne pas choisir la disparition, voilà, l'exfiltration, si on veut, aux États-Unis, voilà, s'absenter, revenir, pas revenir. Mais pourquoi cette mise en scène ?
Alors, je n'ai pas la réponse, mais nous la sommes posée, bien évidemment. Et en fait, il y a peut-être plusieurs pistes de réflexion, à savoir si mon frère fait du renseignement, si sa famille est en danger potentiellement, puis réellement, le principe de l'exfiltration a déjà été envisagé depuis un certain nombre d'années, probablement depuis la première heure en fait. Et du coup, la famille s'agrandissant au fur et à mesure des années, il fallait trouver un mode d'exfiltration qui ne génère pas encore plus de complications. Alors, ça paraît très tiré par les cheveux, le fait de faire un drame familial, mais en même temps, ça permet aussi à la famille de partir n'importe quand. Tandis que si on fait une disparition accidentelle quand tout le monde est en vacances, plus les enfants grandissent, plus ça devient difficile de mettre tout le monde dans le même voilier ou le même chalet, etc. Donc je pense qu'il fallait, voilà, que un drame familial, ça peut survenir n'importe quand.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a inventé ce scénario pour vous protéger, vous et votre maman ? Pour ne pas vous décevoir, parce qu'il savait que justement vous alliez le croire. Et que finalement c'était par amour, pour vous protéger, pour atténuer votre chagrin, et parce qu'il savait, il vous connaît, voilà, elles vont me croire et c'est pour vous protéger. Est-ce que ça vous le pensez même un tout petit peu ou pas?
Alors,
du tout
on me l'a dit en famille, en fait, voilà, Xavier a fait ça pour te protéger. Enfin, je ne vois pas pourquoi il aurait voulu. Alors, protéger sa mère, je peux l'entendre, mais en fait, déjà, ça n'a pas du tout fonctionné, en fait. Et tout le monde dit que Xavier était très intelligent et il aurait été le premier à voir que c'était contre-productif d'écrire une lettre comme celle-là et puis de mettre un PS au milieu disant « n'allez pas voir sous la terrasse », en gros, puis de poser la clé de la cave sur un papier sur la table de la cuisine. Nous l'avons retrouvée quand nous y sommes allés. C'est très, très contradictoire, en fait. Donc non, je ne pense pas que ce soit ça.
Comment est-ce que vous avez vécu ces 13 dernières années ? Comment vous allez ?
Nous allons bien. En fait, nous avons choisi de redescendre, entre guillemets, dans l'arène, parce que c'était évident que nous allions générer beaucoup de controverses et puis de la moquerie, du dénigrement. Mais en fait, là, aujourd'hui, ça ne nous atteint pas spécialement, parce que, en fait, on s'y attendait. Et puis, le dénigrement n'est pas un argument, finalement. Nous voulons nous placer sur le terrain du rationnel. Et les critiques et moi, je pense qu'il y a un déni, justement, en face de nous. De ne pas vouloir remettre en question la version officielle et pour certaines personnes, ne pas écouter nos arguments, je trouve que c'est très irrationnel. En revanche, bon, nous avons quand même assez bien vécu toutes les dernières années, parce que nous avons repris notre vie privée en main. Nous sommes un petit peu changé les idées.
Vous avez avancé.
Voilà.
Votre maman, Geneviève, est-ce qu'elle a lu le livre ?
Elle a lu le livre, et je pense qu'elle est heureuse que l'on prenne la défense de son fils avec des arguments rationnels, parce que sur 300 pages, nous ne sommes pas ni dans l'imaginaire comme dans beaucoup d'ouvrages qui sortent sur le sujet, voilà, ni dans l'aveuglement fraternel. Nous avançons des éléments factuels.
Mais elle vous soutient, elle est d'accord.
Elle nous soutient, tout à fait.
À 100%.
Je pense qu'elle est très reconnaissante à mon mari d'avoir eu le courage d'aller à contre-courant.
Et comment elle va justement, votre maman ?
Ma mère est quelqu'un, contrairement à tout ce qui a été dit, certes de profondément croyant, et sa foi l'a fait vivre, mais aussi de très rationnel. Pour moi, c'est vraiment la mère de Xavier au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle est très positive, Xavier est très positif aussi, et elle sait toujours voir le bon côté d'une situation. C'est pas du tout, ma mère n'a rien de dépressif, justement, en cela, ils se ressemblent beaucoup. Et je pense qu'elle sait toujours faire la part des choses et même avoir, si vous voulez, elle n'est pas partiale. Elle sait même avoir de la considération, même pour les personnes qui vont pouvoir la critiquer. Elle sait toujours faire la part des choses.
Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de porter le nom du pont de Ligonnès au quotidien, dans vos vies respectives ? Est-ce que c'est compliqué ?
Alors personnellement, je n'ai jamais d'attitude ou de réaction désagréable quand je donne mon identité, mon nom de jeune fille, parce qu'à la base, les gens ne mettent pas forcément deux et deux. Alors peut-être que quand les gens font des recherches sur Google et que voilà, qu'ils comprennent qui je suis, vu tout ce qui a pu être dit de fantasmagorie, qu'on a fait de moi le monstre du Loch Ness, donc ma mère aussi. Il y a certainement des personnes que ça va impressionner, mais personnellement je n'ai jamais de retour désagréable.
C'est pas un poids aujourd'hui.
Non.
Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui?
Peut-être que les lignes bougent quand même, que le livre que nous publions, en apportant des éléments enfin qui sont incontestables pour la plupart, parce que bon, mes souvenirs, on peut toujours effectivement les réinterpréter, etc., mais tout ce qui est issu du dossier d'instruction, je pense que ça peut changer au niveau de l'opinion publique quelque chose, en tout cas même si nous ne pouvons pas le toucher du doigt à grande échelle, mais de toute façon je pense que ça fera bouger quelque chose. Oui,
vous espérez son retour? Vous attendez, vous espérez?
Personnellement, je suis assez résignée, mais c'est une espérance qu'on ne peut pas éliminer, bien sûr.
Vous y pensez tous les jours?
Peut-être pas tous les jours. Oui, en ce moment, depuis l'écriture du livre, c'est sûr, on y pense tous les jours.
Merci beaucoup, Christine Dupont de Ligonnès.
Je vous en prie, merci à vous.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.